Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, Le moine qui vendit sa Ferrari de Robert S. Sharma est un livre de développement personnel présenté sous forme de fable initiatique. Il raconte la transformation de Julian Mantle, avocat brillant et fortuné, dont le rythme de vie et l'obsession de la réussite matérielle le mènent à une crise cardiaque. Cet événement agit comme un électrochoc, il vend ses symboles de statut, dont sa Ferrari, et part en Inde à la recherche d'une sagesse capable de réconcilier ambition. Sente et paix intérieure. De retour, il partage ses apprentissages à travers un dialogue accessible et des images marquantes, empruntant à des traditions spirituelles orientales tout en les rendant compréhensibles pour un lectorat occidental. L'objectif du livre est double, invité à questionner ses priorités et proposer des pistes concrètes pour mieux gérer le stress. Renforcer la discipline personnelle et cultiver un bonheur plus durable sont ton simple et narratif en fait une porte d'entrée vers des pratiques de vie intentionnelles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la crise comme point de bascule et la remise en question du succès. Le point de départ du livre repose sur une idée classique, mais puissante, une crise de sens ou de sens peut révéler le code caché d'une vie centrée sur la performance. Julian Mantle incarne une réussite visible, mais fragilisée de l'intérieur par le stress chronique, la négligence du corps, la pression sociale et une cote de reconnaissance sans fin. La crise cardiaque met à nu l'illusion que plus de prestige apporte automatiquement plus de bien-être. Sharma utilise cette bascule pour interroger ce que vaut une carrière si elle détruit la vitalité, les relations et la joie quotidienne. Le geste symbolique de vendre la Ferrari représente un détachement des marqueurs extérieurs, non pas comme rejet du confort, mais comme refus de laisser les objets définir l'identité. Dans la fable, le changement commence quand le protagoniste accepte que la réussite doit être redéfinie, une vie réussie inclut la sente, la clarté intérieure et la cohérence entre valeur et action. Cette remise en question sert de socle aux enseignements suivants qui visent à reconstruire une vie plus équilibrée et plus intentionnelle. Deuxièmement, une sagesse orientale rendue praticable pour un lecteur occidental. Une des signatures du livre est sa volonté de créer un pont entre des inspirations spirituelles orientales et des préoccupations très concrètes de cadres et de professionnels occidentaux. Sans se présenter comme un traité religieux, le récit valorise l'intériorité, la simplicité et la matrice de soi, tout en conservant un langage orienté vers l'action et l'amélioration personnelle. Cette hybridation explique en partie son succès, le lecteur est invité à explorer des idées comme le calme mental, la présence et le sens, mais sous une forme narrative qui évite le jargon. Les métaphores et les histoires servent de véhicules pédagogiques. Elles transforment des principes abstraits en repères faciles à mémoriser et à réactiver dans la vie quotidienne. En même temps, le livre reste une introduction, il ouvre des portes plus qu'il ne prétend épuiser la complexité de certaines traditions. Son intérêt analytique réside donc dans sa fonction de médiation, il propose une spiritualité pratique, compatible avec le travail, les objectifs et la modernité. En rappelant que l'efficacité durable dépend aussi de la qualité de la conscience et des habitudes. Troisièmement, discipline personnelle et rituel quotidien pour stabiliser le changement au-delà du récit. Sharma insiste sur une idée centrale du développement personnel, la transformation ne tient pas à une révélation unique, mais à des pratiques répétées. Le livre met en avant la discipline personnelle comme levier de liberté, en suggérant que la constance crée une base de stabilité émotionnelle et mentale. Plutôt que de promettre une solution instantanée, la fable encourage l'installation de rituels consacrés du temps au silence, à la réflexion, à l'entretien du corps, et à des exercices de focalisation comme la visualisation. Ces habitudes sont présentées comme des ancrages qui réduisent le stress et empêchent le retour automatique aux anciens chemins. L'approche est volontairement simple, mieux vaut une pratique modeste mais quotidienne qu'un élan intense mais éphémère. Dans la logique du livre, la discipline ne sert pas à se contraindre, mais à protéger ce qui compte énergie, clarté, relation, créativité. Le lecteur comprend aussi que les rituels deviennent des choix identitaires chaque jour, il confirme un engagement envers une vie plus consciente, plus saine et plus alignée. Quatrièmement, gestion du mental, attention, présence et réduction du stress, une part importante de l'enseignement tourne autour de la qualité du mental. Le livre suggère que beaucoup de souffrances modernes proviennent de la dispersion rumination sur le passé, anxiété face à l'avenir, surcharge d'informations et dépendance à l'urgence. En réponse, Sharma valorise la présence et l'attention comme compétences entraînables. La fable propose de considérer les pensées comme des phénomènes à observer plutôt que des ordres à exécuter, ce qui ouvre un espace entre impulsion et action. Dans un contexte professionnel, cette capacité devient une ressource, elle aide à mieux décider, à communiquer avec plus de calme et à éviter l'épuisement. Donc, la méditation et les moments de silence sont évoqués comme des outils de régulation, non comme des pratiques ésotériques. L'objectif est une paix intérieure plus stable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le lecteur est aussi invité à ralentir pour mieux voir apprécier l'instant présent, reconnaître les petites satisfactions et réduire la tyrannie des objectifs. Ainsi, la performance est repositionnée. Elle devient le résultat d'une attention bien dirigée plutôt qu'une lutte permanente contre soi. En dernier lieu, sens. Service et bonheur intérieur plutôt que validation extérieure. Le livre affirme que le bonheur durable vient moins de l'accumulation que du sens et de la contribution. Julien découvre que la poursuite de la validation externe, argent, prestige, admiration, crée une dépendance, il faut toujours plus pour ressentir la même satisfaction. En contraste, Sharma met en avant un bonheur intérieur, lié à la cohérence personnelle, à la gratitude et à une orientation vers ce qui dépasse l'ego. Le récit invite à clarifier sa mission de vie, non comme un slogan, mais comme un principe directeur qui aide à choisir, à dire non et à organiser son temps. La dimension du don et du service apparaît comme un antidote à l'insatisfaction donner, aider, transmettre. Renforce le sentiment de valeur personnelle sans passer par la comparaison. Cette perspective ne condamne pas le succès matériel, mais le remet à sa place un moyen plutôt qu'une fin. Dans cette optique, une vie équilibrée se construit en cultivant des relations authentiques, en honorant ses valeurs et en faisant des choix qui nourrissent la paix plutôt que la simple image sociale. En conclusion, le moine qui vendit sa Ferrari s'adresse particulièrement aux lecteurs qui se sentent pris dans une course permanente professionnelle sous pression. Personne ayant atteint des objectifs extérieurs sans ressentir une satisfaction proportionnelle ou simplement quiconque souhaite remettre de l'ordre dans ses priorités. On y trouve un bénéfice pratique sous forme d'impulsions concrètes, créer des routines, réduire le stress, renforcer la discipline et développer une attention plus stable. Le bénéfice intellectuel tient surtout à la redéfinition du succès. Au lieu de mesurer la vie par des signes visibles, le livre propose de la mesurer par la qualité de l'énergie. La clarté intérieure et le sens. Par rapport à d'autres ouvrages du même rayon, il se distingue par son format de fable, qui rend les principes faciles à retenir et à partager, et ainsi que par sa tentative de concilier ambition et vie intérieure plutôt que de les opposer. Il faut toutefois le lire comme une introduction accessible. Il offre une synthèse inspirante plus qu'un approfondissement rigoureux des traditions dont il s'inspire. Dans cette limite, sa force demeure donner envie de reprendre la main sur son quotidien et de construire une réussite plus humaine, plus calme et plus cohérente. Si vous souhaitez soutenir Robin S. Sharma, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !